Je voudrais juste souligner deux ou trois petites choses dans ce long récit de la Passion que nous venons d'entendre et qui sont propres à l'évangéliste Matthieu, puisque chacun des évangélistes nous a donné un récit propre, personnel, de la Passion de Jésus, mais chacun aussi y a mis un certain axe spécifique pour faire ressortir un certain nombre de choses. Et ce qui me frappe personnellement en lisant le récit de Matthieu, c'est la façon dont revient comme un refrain de nombreuses fois que Jésus agit de cette façon précise pour accomplir les Écritures, pour obéir aux Écritures. On l'a entendu par exemple dans le petit récit de l'entrée à Jérusalem. Il a envoyé chercher un âne, une ânesse et un petit, pour réaliser la prophétie qui était contenue dans Zacharie. Voici que ton roi entre monté sur un âne. Et ainsi de suite, tout au long du récit de la Passion, Matthieu a le souci de nous montrer que Jésus réalise les Écritures et obéit aux Écritures. Mais alors vous direz, c'est invraisemblable ça, ça veut dire qu'il est programmé à l'avance et qu'il n'a plus aucune liberté. Je crois qu'il nous faut voir les choses autrement et nous dire que Jésus est celui qui depuis longtemps, puisqu'il est Dieu depuis toujours, il est le Verbe, le Fils de Dieu, la parole de Dieu depuis toujours, avant de s'incarner et de devenir Jésus, c'est lui qui a inspiré les prophètes. C'est lui, en quelque sorte, qui a tracé le plan, si j'ose dire, c'est peut-être un mot qui est mal choisi, le plan de la Passion, et c'est lui qui, ensuite, incarné, devenu homme, réalise ce plan. Et c'est pourquoi il a le souci d'obéir à ce qui est planifié, ce qui est prévu, ce qu'il a choisi. Il n'est pas programmé, il est en pleine et entière liberté, d'une part en pleine et entière liberté humaine, puisque c'est lui qui a voulu mourir pour nous afin de nous libérer de l'emprise de la mort, et c'est lui qui, en tant qu'homme, eh bien, réalise les détails qu'il a lui-même fixés auparavant par les prophéties qui ont été accomplies par les prophètes et qu'il a lui-même inspirées. Voilà, personnellement, c'est ainsi que je comprends le petit refrain de Matthieu qui revient souvent, que Jésus voulait vraiment réaliser les Écritures. Ça n'enlève rien à sa liberté. De même pour nous, lorsque nous aimons vraiment Dieu, si nous nous offrons à lui et que nous lui demandons de réaliser sa volonté sur nous, ça n'enlève rien à notre liberté, car nous le faisons dans un acte volontaire et libre. Deuxième petite chose que je soulignerai, c'est la façon dont Matthieu s'intéresse à Judas. Il est le seul des évangélistes à nous dire que Judas a rapporté les 30 pièces d'argent, les a jetées dans le sanctuaire, que ces pièces ont été ramassées par les chefs religieux, qu'ils ont voulu avec cela acheter un champ qu'ils ont appelé le champ du sang et qui a servi pour des sépultures. Et Matthieu ajoute, Judas est allé se pendre. Judas fut pris de remords d'abord. Judas fut pris de remords, puis il est allé se pendre, il s'est suicidé. Et il nous faut regarder cela. Judas s'est repenti, il a eu du remords. Mais sa repentance, son remords, il ne l'a pas vécu devant Dieu, en quelque sorte. Il l'a intériorisé comme quelque chose qui le concernait lui et qui n'aboutissait pas à Dieu. Il a cru qu'il avait fait un péché tellement grand qu'il ne pourrait plus être pardonné. Et l'image de lui-même que cela lui renvoyait l'a poussé à se supprimer. Il lui suffit qu'il ait une autre attitude, celle qui consiste à faire appel à la miséricorde du Père. Et alors, il aurait été sauvé, il aurait vraiment reçu le pardon. De même que, d'après l'évangile selon saint Luc, car Matthieu n'en parle pas, le larron crucifié à droite de Jésus s'est entendu dire « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis ». Lui aussi a été s'est repenti et il a demandé pardon à Jésus et il a été absous en quelque sorte et il a été accueilli dans la gloire. Mais Judas n'a pas demandé pardon. Il s'est enfermé dans son... Voilà. Il y a quelque chose qui nous est dit ici sur la façon dont nous devons nous-mêmes, quand nous avons conscience d'avoir péché, eh bien nous ouvrir à Dieu pour lui demander pardon et accueillir son absolution, c'est-à-dire le fruit de sa croix, le pardon qu'il donne sur la croix. Père, pardonne-leur, ils ne savent ce qu'ils font. Et puis il y a d'autres choses, une troisième chose, puis j'arrête là, que je voudrais souligner, c'est la façon dont Matthieu nous dit que au moment où Jésus est mort sur la croix, le rideau du temple s'est déchiré en deux, que de nombreux morts sont ressuscités et qu'ils sont rentrés dans Jérusalem. Très curieux comme petit détail, très curieux, ce qui veut dire que déjà la résurrection est à l'œuvre. C'est comme si Jésus venait d'entrer dans la mort et poussait de l'intérieur et que ça ressortait quelque part par la résurrection, le retour à la vie d'un certain nombre de morts. C'est du moins ce que nous dit Matthieu ici. C'est un peu imagé finalement, parce que je pense que ce n'était pas une vraie résurrection, c'était un retour à la vie terrestre. Ils sont remorts, c'est le cas de le dire. Mais ça nous fait bien comprendre que Jésus a voulu mourir pour entrer dans la mort et vaincre la mort et ouvrir une brèche pour que nous puissions vivre, pour que nous ne puissions que traverser la mort et déboucher sur la vie et dans la gloire de Dieu. Lisez les récits de la Passion, c'est toujours très intéressant. D'abord, on les lit plus facilement que le reste de l'Évangile parce qu'on est un peu captivé par le récit et donc on y rentre plus facilement et il y a là une nourriture aussi qui nous est donnée pour notre propre édification spirituelle. Nous aurons l'occasion tout au long de cette semaine de revivre des passages de l'Écriture. Vendredi encore à l'Office de la Passion qui aura lieu à la Minesse, eh bien nous entendrons à nouveau le récit de la Passion selon saint Jean. C'est important de nous imprégner nous-mêmes de ces récits tout au long de cette semaine pour vivre intensément ce moment intérieurement.